Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 22h47, Stéphane Guy, Flo Gautreau en direct jusqu'à minuit. Merci d'être là, d'avoir choisi RMC une fois de plus. À suivre à partir de 23h, la Ligue 1, le retour, enfin, dans 2 jours, Derby du Nord et dans 4 jours, ce Marseille-Paris-Saint-Germain qu'on continue d'évoquer ce soir, 32-16.
Ah, c'est vrai que ça repart fort, hein. Derby du Nord, ouais. Rentrer comme ça.
Tac. Vendredi, dimanche, le Marseille-Paris-Saint-Germain, il y aura Lyon-Monaco samedi. Un gros week-end de Ligue 1. Ah oui, la Ligue 1, on la critique et tout, mais quand elle n'est pas là, elle nous manque, on s'en rend compte. 23h, est-ce que ce OM Paris Saint-Germain vous excite toujours? N'hésitez pas, le 32-16. Et puis, la question spécifique aux Marseillais, quelle équipe, quel 11? Venez faire votre 11. Je vous donnerai les dernières nouvelles et de l'infirmerie, elles ne sont pas bonnes. On pourrait presque faire un 11 de l'infirmerie côté Marseillais, qui serait meilleur que le 11 possible. Dimanche. En attendant, l'Euro, donc, et les adversaires de l'équipe de France, on les connaît tous depuis hier, et la qualification de la Pologne face au Pays de Galles. On sera dans quelques minutes avec un invité, Mathieu Péquenard, un spécialiste du foot de l'Europe de l'Est. Mais pour parler des Pays-Bas et de l'Autriche, accueillons notre drôle de dame, Polo Breitner. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Et Johan Crochet, salut Yo.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, commençons par l'Autriche, premier adversaire de l'équipe de France. Ce sera le 17 juin. L'Autriche, Polo, qui a collé un 6-1 hier à la Turquie. 5e victoire de suite et sans quelques joueurs majeurs. Est-ce qu'à un moment donné, on commence à s'inquiéter un petit peu ou pas?
Pour la France? Non, ah, oui. Moi je ne pense pas, parce qu'en fait le 6-1 hier, si tu t'arrêtes à la première mi-temps, c'est assez dramatique, le jeu de l'Autriche. C'est pas la première fois d'ailleurs que je suis assez déçu avec la prestation de l'Autriche, et j'ai le sentiment que même si la tendance est très positive, n'oublions pas qu'ils sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2022, qu'ils ont changé de sélectionneur, même si on reste sur ces 5 victoires, s'il y a des victoires contre l'Allemagne et l'Italie en match amicaux, ils ont pas réussi à rester en première division en Ligue des Nations, avec des prestations assez modestes, on va dire ça comme ça. Et puis la première mi-temps, il n'y arrive pas bonne. Et donc en fait, c'est surtout la faiblesse de la Turquie en seconde période qui fait qu'on a un score fleuve. Sur le papier, c'est très intéressant. D'ailleurs, les Autrichiens pensent qu'ils ont la plus belle génération depuis une quarantaine d'années. Donc la génération des Krankl, des Proaska, Bruno Petze, etc. Mais ça commence à dater. Et surtout, depuis 2021 et l'Euro, où ils avaient été éliminés par l'Italie en prolongation, j'ai pas le sentiment qu'on ait vraiment progressé. J'ai vraiment une belle équipe sur le papier, mais les prestations et le contenu, moi, ne me satisfont pas. Et je trouve, en plus, qu'il y a quelques absents. Vous parliez des absents pour Marseille, mais David Alaba, quand même, quoi. Mmh. Ça fait mal.
Bah oui.
Y a des postes qui sont pas au niveau d'une compétition européenne en attaque.
J'ai l'impression que tu pourrais parler de l'équipe de France, ça dirait la même chose, peut-être.
Ouais, mais j'aimerais bien avoir le débat sur Thuram, Kolo Muani en équipe d'Autriche, tu vois. Je l'ai pas, moi, ce genre de problème. Le gardien, ça pourrait être Schlager, le gardien de Salzbourg, qui a 28 ans, 14 sélections. C'est quand même pas terrible. Il y a vraiment, ce sont des postes clés. Le milieu de terrain est très fort. Donc ça, c'est toute la génération de Salzbourg et Leipzig, etc. La défense centrale est théoriquement très fort malgré le départ d'Alaba. Donc c'est Danzo et ce devrait être Linhart de Fribourg. Les latéraux, c'est pas terrible. Donc tu as, en fait, une abondance de biens au milieu de terrain et sur le banc, mais tu as des postes qui sont pas terribles. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait faire de l'Autriche une équipe dangereuse, d'autant plus que moi j'ai le souvenir de l'Euro 2016 où on avait une équipe, je cite la presse autrichienne, parfaite, un 4-3-3 qui était parfait pour l'Euro 2016, et on a vu ce que ça a donné. Donc si tu veux, je reste extrêmement dubitatif sur cette sélection. Je l'adore, encore une fois, sur le papier, mais le contenu ne me satisfait pas.
On est sur un schéma immuable, hein, 4-2-3-1, enfin, il n'y aura pas de surprise pour les Bleus.
Ouais, il y aura pas de surprise. Ce sera plus un 4-5-1 qu'un 4-2-3-1. En fait, c'est vraiment le milieu de terrain où ça travaille beaucoup avec côté droit, par exemple, ce sera Leimer, le joueur de Stuttgart. À gauche, sera Sabitzer. Baumgarten, le milieu de terrain de Leipzig. Et derrière, il y a le choix et la surprise de Ralf Rangnick, du boss Rangnick, parce que c'est la vraie bonne nouvelle, c'est que Rangnick a fait le ménage et a remis une sélection comme il fallait. Ce sera, logiquement, Zeewald, qui ne joue pas à Leipzig d'ailleurs. Et à côté de lui, il y aura le choix entre Schlager et évidemment, Leipzig aussi, ou Grealish, le joueur d'Offenheim. Mais c'est un 4-5-1 parce que ça joue extrêmement petit, en fait. Il n'y a pas de véritable ailier. C'est des milieux de terrain, en fait, décalés sur les côtés. Donc, ce n'est pas un vrai 4-2-3-1, c'est plus 4-5-1.
Et toi, quand tu dis, Polo, que tu n'es pas inquiet pour la France, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que cette France qui, des fois, presque être dominée, donc quelque part, qui pourrait châtier d'ailleurs des équipes qui prennent le jeu à leur compte, ce sera le cas avec l'Autriche. L'Autriche est capable d'essayer de prendre le jeu.
Le problème, l'Autriche peut prendre le jeu, ça va être l'école du gegenpressing évidemment de Ralf Rangnick. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déchets, parce qu'une fois que tu fais un pressing très fort, faut-il encore avoir les joueurs techniques pour faire évoluer. Et encore une fois, comme il y a des postes, et notamment le poste de numéro 9 qui n'est pas excellent, on a le choix entre Arnautovic qui est blessé pour l'instant, Kalajdzic qui devait être celui, après l'Euro 2021, qui devait prendre la place avec ses 2 mètres en pointe, et ben il est pas bon. Et aujourd'hui, on joue à Grigoric, l'attaquant de Fribourg, qui est quand même le numéro 3 dans la hiérarchie. On a Adamou qui a complètement disparu de la circulation et qui joue pas à Fribourg non plus. Donc en fait, le problème, c'est que si l'équipe de France prend ce match comme un match facile, elle risque d'avoir une mauvaise surprise. Si l'équipe de France est très sérieuse, techniquement parlant, elle va être supérieure en fait à l'équipe d'Autriche. Et moi, c'est ça un peu qui me déçoit.
C'est quoi le calendrier des matchs de l'équipe de France?
L'Autriche d'abord, les Pays-Bas et la Pologne pour finir. C'est ça.
Exactement. L'Autriche le 17 juin et 4 jours plus tard, ce sera les Pays-Bas de Johan Crochet, bien sûr, qui suit cette nation. Et à l'inverse, fin de série pour les Pays-Bas qui étaient sur 4 victoires de suite. Ils ont perdu contre l'Allemagne hier soir 2-1. Et avec cette impression finalement que dès que c'est un gros en face, ça le fait pas pour les Pays-Bas.
Oui, plus ou moins, parce que quand vous regardez la composition hier, le schéma a changé. Il y avait une moitié d'équipe A simplement. Il y avait pas mal d'absents. Déjà, il y a toujours beaucoup de blessés. Ça fait un an et demi qu'il y a énormément de blessés du côté des Pays-Bas. Donc, c'est difficile même pour Koeman de pouvoir se projeter et être certain que certains joueurs seront justement en forme pour l'Euro et qui seront en capacité de répondre positivement à une convocation en équipe nationale. Donc oui, mais sans doute, mais c'est un peu l'histoire des Pays-Bas. T'as un plafond de verre parfois sur certains matchs. Encore que hier, je sais pas ce qu'en a pensé Polo, mais l'Allemagne avait évidemment beaucoup le ballon. Ils ont très bien contre-pressé en première mi-temps et ça a mis en difficulté les Pays-Bas. J'ai bien aimé la réaction au retour des vestiaires avec un gros temps fort et plusieurs grosses occasions. Et à la fin, l'Allemagne est quand même un peu plus forte aussi sur le match là, mais bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup de motifs positifs sur cette trêve internationale. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas vraiment marqué des points. Je pense notamment à Frimpong, qui n'a pas été bon contre l'Écosse. Et aujourd'hui, aux Pays-Bas, on parle beaucoup de ce cas-là spécifiquement. Est-ce qu'il sera en capacité d'être dans les joueurs appelés par Ronald Koeman? Il y en a d'autres, on a des interrogations. Quand je vois encore Daley Blind, c'est compliqué. Hein. Alors déjà, à gauche, c'est vraiment très très compliqué aujourd'hui avec l'exigence que demande ce poste-là, parce que hier il jouait dans une défense à 3 et donc Blind était piston gauche. Ça demande une telle exigence physique que Blind est juste pas capable de le faire, donc peut-être qu'il jouera en tant que défenseur central, mais à gauche c'est plus possible. Et il y a des joueurs qui ont marqué des points comme Reinders contre l'Écosse qui a été bon, Depay qui a été très très bon aussi, je trouve, qui vraiment dans ce rôle-là sous Koeman, déjà dans son premier exercice, était déjà très très fort en faux numéro 9, qui décroche, qui participe au jeu, qui très juste techniquement. Donc il y a des motifs de satisfaction. Il y a quelques interrogations quand même sur la liste de joueurs, notamment dues aux blessures, parce qu'un joueur comme Botman par exemple, qui aurait pu être dans la liste, on sait qu'avec sa rupture des ligaments croisés, c'est terminé. Il y a des incertitudes sur le gardien aussi. C'est un vrai débat aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, hier, je ne sais pas si Polo a bien aimé son match, mais Verbruggen a fait un bon match contre les Allemands, le gardien de Brighton. Comme Bailo est toujours blessé avec Feyenoord, il est sans arrêt blessé, que les autres n'avancent plus, ce sera peut-être lui le titulaire à l'Euro.
Sur les schémas tactiques, il hésite ou il prépare les deux, de défense à 3, défense à 4?
Je pense qu'il prépare vraiment les deux. En fait, le problème des Pays-Bas, c'est qu'il y a une telle abondance au poste de défenseur central que parfois ne pas jouer à 3 c'est limite gâché, parce que quand vous prenez Van Dijk, De Ligt, Ake, Stéphane De Vrij, Jurjen Timber, Mickey van de Ven à Tottenham, Sven Botman à Newcastle, enfin on parle souvent des défenseurs centraux français, mais il faut aussi regarder ce que fait les Pays-Bas, et il y a 7-8 joueurs de très haut niveau pour un seul poste, enfin pour deux postes si tu joues à 4 ou trois postes si tu joues à 3. Donc il y a aussi des questions, hein. Moi j'étais un peu étonné par exemple qu'il joue avec une défense à 4 avec Frimpong contre l'Écosse, et que dans un schéma en 3-4-1-2 contre l'Allemagne, qui est pourtant un schéma préférentiel pour Frimpong, il ne le fasse pas jouer. Donc je pense sincèrement qu'il prépare les deux. Il a des joueurs qui sont capables aussi de jouer à soit en défenseur central, soit en défenseur de côté.
Mais lui, il est plutôt, il préfère plutôt jouer à 3.
Non, depuis un petit moment, il préférerait jouer à 4. Après, la constitution de son équipe, le fait aussi qu'il n'est pas toujours un numéro 9 qui soit très fiable, ça pose des questions. Et par exemple, une attaque à 2 avec un Depay qui n'est pas vraiment un 9, et un joueur à côté qui pourrait être Zirkzee qui est un 9, mais qui est un joueur qui décroche beaucoup aussi, ou un Brobbey qui est vraiment un 9, ou un ailier qui est recentré comme Malen, comme Cody Gakpo, qui ne jouait pas hier non plus. C'est un peu dicté aussi par les formes du moment, sans doute aussi par les adversaires, mais moi je trouve ça très bien qu'il prépare deux systèmes de jeu dans lequel beaucoup de joueurs peuvent s'insérer.
Il fait ce que Flo demande à Didier Deschamps, quoi. Beaucoup de défenseurs centraux,
beaucoup de coachs quand même. Et effectivement il y a deux choses, c'est vrai qu'on peut le prendre dans les deux sens. Soit on le prend par rapport à ses défenseurs. Alors soit on le prend par rapport à l'équipe adverse, déjà, pour être prêt dans, dans plusieurs cas, il y a ça quand même.
Ouais, mais non, nous on impose notre jeu, nous.
Non, justement. Et c'est pour ça que c'est très bien, assumons ça. Si tu imposes pas ton jeu, tu regardes l'équipe adverse. C'est comme ça que Deschamps est venu au 3-5-2 d'ailleurs.
Et pour aller dans ce sens-là, Flo, l'Italie a travaillé un système à 3 aussi avec, avec deux milieux offensifs derrière un attaquant, parce qu'il y a aussi un problème de 9.
Voilà,
c'est un schéma qui répond à des absences au poste de neuf.
C'est ça. Et moi, là, la réflexion que je m'étais faite, effectivement, c'était par rapport au poste d'attaquant. C'est pas débile de partir de l'attaque pour te dire quand en plus tu as Pléthore et Deschamps est exactement dans le même cas, même si c'est pas les mêmes profils que les Pays-Bas, avec et lui-même sélectionne fait des listes avec plein de défenseurs centraux. Donc c'est paradoxal parce que lui-même est revenu à 4, là où il a le plus de défenseurs centraux de métier.
Juste rapidement, Yo, on ira pourquoi l'Euro Pays-Bas, l'ambition c'est de le gagner.
T'as déjà croisé des Pays-Bas humbles, t'as croisé déjà des Néerlandais humbles dans la rue, non pas trop.
C'est vrai, quand je vais au camping, en général, ils sont pas comme ça.
Et surtout, au tennis ballon.
Tu vas avec de l'ambition parce que t'es les Pays-Bas et que t'aimes bien représenter ton pays et être beau et bon. Mais après, tu te heurtes toujours à des limites aussi face à des très très grandes nations. Donc,
ils savent qu'ils perdent beaucoup en finale quand même.
Oui, voilà, notamment, t'y vas pour sortir du groupe. Et t'y vas pour ensuite, selon comment se feront les croisements avec les autres groupes et qui se qualifiera, etc. T'y vas pour être globalement quart de finaliste. C'est un peu toujours l'objectif de base de toutes les sélections néerlandaises quand elles participent aux grandes compétitions.
Merci Yoann, merci Polo. Bonne soirée,
merci
les gars.
À vous.
À très vite dans l'After pour reparler de 7 euros et au plus tard lundi, 20h, 22h, Génération After spécial Drôle de Dame. Dans un instant, invité de l'After. Un homme qui connaît très bien le dernier adversaire de notre poule, la Pologne, qui s'est qualifié hier face au Pays de Galles. Il s'appelle Mathieu Pecknard. Il travaille notamment pour le site Footballski. Connaît très bien cette sélection polonaise. Il sera là dans un instant. Et puis la Ligue 1 de retour également. Marseille, Paris, Saint-Germain, J-4. Êtes-vous toujours
pas sport
excité par ce match? De quoi?
Pas comme le biathlon, le footballski.
Non.
c'est un bon concept, ouais, ça, non?
Je sais pas sûr.
Bah, tu fais du ski, puis tu mets une cage, un gardien de but.
Mais déjà, on a du mal à marcher avec les choses.
Ouais, c'est vrai.
Alors, jouer au foot.
Mettre un péno.
Ouais, compliqué. Après, ceci dit, quand tu regardes certains matchs, tu te dis, t'as l'impression qu'il y a certains joueurs qui jouent avec des chaussures de ski. Et on les embrasse. 23h, c'est l'After. Stéphane Guy, Flo Gautreau, on est en direct jusqu'à minuit. À tout de suite sur RMC.